des gens abusés, manipulés, arnaqués. Vous avez toutes les preuves devant les yeux. Et maintenant, quelqu'un doit payer. La chaîne télé, Témoin, pour des scandales en série. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Cube Radio. Yasmine Abdel-Fadel. Une animatrice hors norme, aussi percutante que l'actualité. Grande stratège, elle décortique les messages et analyse les non-dits. Méthodique, elle regarde chaque détail à la loupe.
Cube Radio, Cube Radio.
Surprenante, improbable, décapante. Elle ne laisse personne indifférent. Yasmine Abdel-Fadel.
Eh oui, c'est déjà vendredi, mais c'est surtout le lendemain de l'ultime débat qui a eu lieu à Radio-Canada hier. Je suis très contente de vous retrouver. Qu'on puisse regarder tout ce qui s'est passé hier et voir où est-ce que ça va emmener les prochains chefs, les chefs dans les prochains jours. Et hier, je ne sais pas si vous l'avez regardé, mais c'est un débat où, franchement, tout le monde a fait mieux que la dernière fois, mieux qu'au face-à-face. Tout le monde a visiblement compris qu'il y avait des améliorations à apporter. C'était certainement pas cacophonique, ça c'est sûr. C'était comme une succession d'exposés oraux où tout le monde voulait être plus fin que fin. Un speed dating avec les Québécois. Peu de prise de bec, peu d'attaque. Puis les quelques-unes qu'il y en a eu, c'était bof, là, tu sais. C'est juste parce qu'il y en avait tellement peu qu'on se disait « Ah! » Les décorations d'Halloween, de GND, puis combien de morts auriez-vous sacrifié Éric Duhaime, puis les droits des femmes qui a reculé selon Dominique Anglade. Tu sais, il n'y a rien de surprenant là-dedans. Il n'y a rien de quoi faire un feu. Bref, ils vont tous pouvoir maintenant souffler, maintenant que la traversée du feu a été faite deux fois plutôt qu'une. Et maintenant, on rentre dans une période où c'est l'heure de convaincre et de faire sortir le vote. Puis faire sortir le vote, c'est un défi qui est plus important chez certains partis politiques, notamment les libéraux et le Parti conservateur, qui n'a jamais eu de machine à faire sortir le vote. Parti libéral, c'est pour donner une raison à leurs électeurs et militants de sortir voter pour eux. Donc, c'est tout un défi. Mais la personne qui doit être la plus contente que ces débats soient terminés, ça doit être François Legault. Ça avait l'air tough hier pour lui, les débats. On le voyait, il a commencé bien souriant. Puis plus la soirée avançait, plus il était plus capable. On voyait que Gabriel Nadeau-Dubois vient le chercher. Là, lui, il tombe sur les nerfs. On dirait qu'il est insulté ensuite de devoir débattre avec un Éric Duhaime. Puis il est juste complètement indifférent à Dominique Anglade et à Paul Saint-Pierre Plamondon. C'est drôle à voir. Il y avait plus d'énergie au point de presse en parlant aux médias après le débat que durant le débat. Sinon, qui est le gagnant de ce débat? Moi, je vous dirai personne. Mais par contre, la séquence qui a attiré l'attention durant la soirée d'hier, c'est cette vidéo qui a été diffusée par Dominique Anglade quelques minutes avant de rentrer en débat, sa manière de lâcher son fou avant de rentrer débattre avec ses collègues. On écoute un extrait. Et ce qu'on n'entend pas à la radio, ce qu'on voit pas, c'est Dominique Anglade en train de danser puis d'essayer de lâcher son fou, là, en écoutant « I got a feeling » des Black Eyed Peas. On voyait que les commentateurs de Radio-Canada étaient bien mal à l'aise sur comment expliquer cette vidéo-là quand il est sorti. On voyait un Sébastien Bové, puis écoutez, c'était drôle parce qu'il disait « Ah, puisque c'est comme ça, OK. » On dirait qu'ils n'étaient pas capables de dire « OK, elle a lâché son fou, elle l'a mis sur TikTok, elle l'a mis sur Instagram, on passe à autre chose. » Sinon, trêve de plaisanterie, passons aux choses sérieuses. Les îles de la Madeleine et la Nouvelle-Écosse se préparent à l'arrivée de Fiona. Fiona, qui est un ouragan qui a déjà frappé la République dominicaine, les Bermudes et qui se dirige vers l'est du pays. Et d'ailleurs, on va en parler avec Peter Kimball, météorologue chez Environnement Canada. Bonjour, Monsieur Kimball.
Bonjour.
Alors, quelles sont les prévisions pour Fiona? Quand est-ce qu'elle cet ouragan touchera terre à l'est du pays?
Ben, ça commencera tard cet après-midi, ce soir, à Nouvelle-Écosse, parce que là, c'est là que ça va rentrer en premier. Présentement, la dépression, l'ouragan est bien au sud de Nouvelle-Écosse, mais elle se déplace vers le nord assez rapidement. Donc, ça commence ce soir, et par la suite, assez rapidement, ça va s'étendre à l'île du Prince-Édouard, la Gaspésie, demain matin, tard cette nuit, la Basse-Côte Nord, puis l'ouest de Terre-Neuve également.
Est-ce qu'on s'attend à ce qu'une fois que ça va toucher terre, ça va diminuer en intensité, ou est-ce que ça risque d'être aussi fort quand ça va arriver en Gaspésie, par exemple?
En termes d'intensité de la pression centrale, oui, ça commencera à diminuer d'intensité quasiment immédiatement lorsqu'elle se rendra près du Cap-Breton ce soir. Mais en raison du fait que la dépression se transformera dans une dépression post-tropicale, parce qu'il y a un grand creux à l'ouest, il y a beaucoup d'air froid, puis ça permet au système de développer davantage. Donc, ça va grandir en termes d'étendue. Donc, ça va s'étendre à Gaspésie, comme j'ai mentionné, la Basse-Côte-Nord assez rapidement. Donc, le système est très grand et ça va grossir, mais entre-temps, ça va diminuer d'intensité lors de la journée de samedi à dimanche.
Les vents attendus seront de quelle intensité et qu'est-ce que ça peut causer comme dommages concrètement?
Oui, bonne question, parce que là, à Nouvelle-Écosse, où ça va commencer pendant la nuit, puis demain matin, on verra des vents soutenus probablement à 100, 120 km à l'heure, puis avec des rafales jusqu'à 150 km à l'heure, peut-être même plus. Donc, ça va causer beaucoup de dommages. Pour donner un peu de perspective là-dedans, il faut se rappeler que cet été, au mois de mai, fin de printemps, on a eu un derecho au Québec, puis dans le sud ontarien, puis le 21 mai. Puis ceci a donné beaucoup de dommages à travers la trajectoire du système, avec des vents de 120 à 130 km à l'heure pendant 10 minutes. Là, on parle de vents de 120 à 150 km à l'heure pendant des heures. Donc, ça va causer beaucoup de dommages, énormément de dommages pour la Nouvelle-Écosse, probablement également pour l'île du Prince-Édouard, certainement pour les îles de la Madeleine également.
Alors, la prudence est de mise pour les habitants de l'est du pays, les îles de la Madeleine, la Nouvelle-Écosse, le Gaspésie et toute la région. On leur souhaite bonne chance et évidemment, on va surveiller de très près ce qui se passe. Merci beaucoup, M. Kimball.
Je vous en prie, au revoir.
Peter Kimball est météorologue chez Environnement Canada. On se déplace tout de suite pour parler avec une résidente des îles de la Madeleine, Ève-Marie Fournier. Bonjour, Madame Fournier.
Bonjour.
Alors, vous avez bien entendu le météorologue d'Environnement Canada qui nous disait que les dommages pouvaient être sérieux. Comment on se prépare lorsque on sait que le pire est à venir à ce genre de situation?
Ben, c'est sûr que nous, aux îles, on est quand même relativement habitués à ce genre de tempête-là. Donc, la préparation est toujours la même. On va attacher le plus possible tout ce qui est à l'extérieur, les bacs de poubelles. On va virer les tables à pique-nique à l'envers, rentrer le plus de choses possible si on a un garage, un cabanon. Fait que avoir le moins de choses qui traînent sur le terrain, c'est vraiment la priorité. Ensuite, il y a des inquiétudes au niveau des gens qui ont des bateaux. Je sais qu'il y a certaines personnes qui décident de les laisser à l'eau, d'autres qui vont les sortir de l'eau, mais c'est de les attacher de façon à ce qu'ils soient le moins exposés possible au vent puis aux vagues qui vont rentrer. Puis après ça, il y a toute la question aussi de du possible manque d'électricité ou du manque d'eau. Fait qu'on achète des vivres à l'avance, on a tout fait notre tournée à l'épicerie, on a tous des bidons d'eau en cas d'urgence, puis ensuite on attend.
Et avec votre en famille, est-ce qu'on choisit une pièce dans laquelle on reste? Comment on peut se protéger des éclats de verre potentiels, puis de potentielles coupures de courant pendant quelques jours?
Pour, au niveau des pièces de maison, c'est une bonne question. Là, je vous dirais que c'est la municipalité des îles dit à la population que le mieux, c'est de rester à la maison tout simplement. Mais si je compare à quand on a eu l'ouragan Dorian il y a 3 ans, on n'a pas eu de bris de verre avec des vents de 175 km/h et plus, des rafales presque à 200. Fait que là, les vents qui sont annoncés sont moins pires qu'à Dorian. Fait que je pense pas que ça, c'est une inquiétude. Par contre, au niveau des pannes d'électricité, ben c'est quelque chose qui arrive couramment aux îles. Fait que la plupart des gens ont des foyers là. En même temps, là, c'est pas l'hiver. Il n'y a pas vraiment une urgence de chauffer les maisons, mais sinon, on se regroupe ensemble. Je sais qu'il y en a qui ont des génératrices, fait que les gens vont aller, par exemple, chez l'oncle ou la tante qui a une génératrice. Il y a une belle solidarité aux îles, puis c'est ça qui est beau, là.
Aux îles de la Madeleine, vous êtes évidemment aux premières loges de ces phénomènes météorologiques qu'amènent notamment les changements climatiques. Là, vous nous parliez d'il y a 3 ans, un autre phénomène qui est venu vous frapper. Là, aujourd'hui, c'est Fiona. Quel est l'impact sur la vie? Parce que on en parle à chaque fois qu'il y a une catastrophe comme celle qui peut arriver ou un danger météorologique qui peut arriver. Mais au-delà de ça, l'impact sur l'érosion des berges aux îles de la Madeleine, qu'est-ce que ça représente pour qu'on puisse bien comprendre la situation?
Ben, faut savoir qu'aux îles, en moyenne, on va perdre 1 mètre de terre par année tout le tour des îles.
C'est énorme.
C'est énorme, 1 mètre, là. T'sais, faites juste penser à si votre maison est à 5 mètres du bord, ben, il vous reste 5 ans pour la déplacer. C'est vraiment ça, là. Fait que, en fait, quand il y a des grosses tempêtes comme ça, ce qui est dommage, c'est que ça arrive souvent qu'à certains endroits aux îles, on va perdre 1 mètre de terre annuelle en seulement une tempête. Le danger de l'érosion, mais c'est sûr que ça amène beaucoup de problèmes au niveau du déplacement des habitations, des routes aussi, parce que nos aux îles, pour ceux qui sont déjà allés, vous savez que c'est littéralement de l'asphalte sur une dune de sable. Fait que faut protéger les dunes, faut faire en sorte d'avoir le plus de protection possible, parce que probablement qu'un jour on n'aura pas le choix de créer des ponts entre les îles au lieu de pouvoir traverser directement sur la terre. Fait que c'est ça, c'est pour nous, l'érosion fait partie de notre quotidien, puis les changements climatiques amènent des tempêtes qui sont de plus en plus fréquentes et de plus en plus violentes aussi. Fait que c'est
parce
sûr que
s'il y a une tempête, c'est ça, s'il y a une tempête une fois par année, vous perdez 1 mètre plus le 1 mètre habituel, ça commence à faire 2 mètres. Mais c'est parce que si vous avez 2-3 ouragans ou 2 tempêtes, de pluie, ben là, ça commence à faire pas mal plus là chaque année.
Effectivement, c'est vraiment inquiétant. Puis tu sais, il y a des endroits très prisés aux îles, là, comme la Grave ou encore le parc de Gros Cap, qui sont très très exposés. Puis c'est des endroits qui sont, mettons, très touristiques, qui ont une grande valeur historique ou patrimoniale aux îles de la Madeleine. Puis là, on essaie de faire des projets pour contrer l'érosion. Fait que c'est de mettre des espèces de plaster, le faire de l'enrochement, creuser des digues, des choses comme ça. Ça affecte le paysage, mais en même temps, on n'a pas vraiment le choix si on veut conserver ces endroits-là puis gagner quelques années, là.
Il y a quelques mois, on parlait de ce fameux câble de télécommunication entre jusqu'aux îles de la Madeleine qui était enfoui sous l'eau. Est-ce que vous avez peur qu'il arrive encore des problèmes puis que vous soyez encore une fois coupé du monde parce que ce câble-là est sectionné puis qu'on a encore de la misère à vous reconnecter finalement?
Oui, c'est drôle parce que cette fois-là, dans les médias, on avait entendu parler de ça comme étant un peu une catastrophe puis ça. Mais tu sais, nous, aux îles, au final, en tout cas, je veux pas parler pour tout le monde là. Je parle moi puis mon entourage proche là. On l'avait vécu comme on va jouer à des jeux de société pendant une fin de semaine puis on va on va en profiter pour reconnecter, faire des soupers. Fait que, est-ce que c'est une inquiétude? C'est sûr que oui, à long terme, on aimerait ça pouvoir avoir les mêmes services que tout le monde sur le continent. Mais par contre, si on y pense plus à court terme, si ça arrive, ben on va vivre avec puis on va passer au travers. C'est juste que faudrait pas que ça commence à arriver une fois par année, c'est certain.
Madame Fournier, on reconnaît ici la résilience et l'optimisme légendaire des Madelinos. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je vous souhaite que ça se passe bien. Restez prudente puis on se reparle pour savoir comment ça a été la semaine prochaine.
Merci beaucoup. Bye bye.
Au revoir.
Des analyses sur le monde sans frontières. Savoir et comprendre l'international. Guillaume Lavoie.
En Iran, on assiste à un véritable mouvement mené par des femmes qui disent « basta, ça suffit ». Assez, c'est assez. Les dérives répressives de l'État religieux, ça commence à faire des mouvements dans la société. Les femmes qui disent, on va pas commencer à me dire comment m'habiller. Et en même temps, on voit encore qu'il y a d'autres femmes qui sont descendues dans la rue aujourd'hui qui disent qu'il faut maintenir l'obligation de porter un voile. Alors, c'est un mouvement qui est assez particulier. Est-ce qu'on aura une révolution iranienne? On en parle avec Guillaume Lavoie. Bonjour, Guillaume.
Bonjour Yasmine.
Alors, raconte-nous, mets-nous dans le contexte de ce mouvement de société qu'il y a en Iran.
Oui, et je dois faire amende honorable. C'est des fois, évidemment, quand on regarde le vaste monde, c'est comme si, peut-être, distrait par ce qui se passait aux États-Unis, un peu ce qui se passait chez nous. C'est dans les choses très importantes auxquelles je n'ai pas porté assez attention. Et il y a peut-être quelque chose de plus fondamental encore. Alors, effectivement, d'abord, juste pour positionner la chose, Iran 101. C'est pas un petit pays, c'est un énorme pays. Hein, 89, 90 millions de personnes. C'est le deuxième géant du monde musulman. Mais contrairement aux autres du monde musulman, ils sont pas arabes en Iran. C'est la civilisation perse. C'est donc un ancien empire. C'est le grand rival de l'autre géant qui est l'Arabie saoudite. Et c'est gigantesque comme territoire. Ça fait le pont entre le Moyen-Orient et à la limite presque l'Asie mineure. Vous avez d'un côté le Caucase, d'un côté le Moyen-Orient, la Syrie, l'Irak, l'Afghanistan, le Pakistan. Par exemple, au nord, c'est la mer Caspienne, puis au sud, le Golfe Persique. Alors, vous voyez un peu où est-ce qu'on est. Et c'est vraiment une théocratie, parce que quand le chef suprême de l'État a le nom de leader suprême, déjà là, c'est inquiétant. Mais c'est une théocratie depuis la révolution de 1979, où là, on a vraiment un État religieux dans son sens propre.
Et, il faut dire que les Iraniens ont changé une monarchie, finalement un empire, un empereur et une impératrice, pour un régime totalitaire et islamiste. Là.
Islamiste, mais jusqu'au bout des ongles. Et avec une attitude, ma foi, infréquentable. Évidemment, oubliez ça, les droits individuels, oubliez la tolérance. Par exemple, l'ancien président iranien était en entrevue à un moment donné lors d'une assemblée générale à l'ONU. On lui demande en quoi est-ce que votre pays est meilleur que l'Occident. Mais chez nous, il n'y a pas d'homosexuel. Alors, vous voyez un peu là, dans quel univers mental on se trouve. Et il considère qu'Israël, c'est un cancer qui doit être éliminé. Alors, infréquentable, et ça cause énormément de pauvreté, énormément de frustration. Bref, c'est pas très agréable d'y vivre. Et là, on est face à un phénomène où il y a une police religieuse qui se promène, la police de la moralité. Et lorsque vous portez si vous êtes une femme, vous devez porter le foulard. Donc là, on parle de couvrir la tête, les cheveux et les épaules. Et si vous le portez pas bien, bien là, la police peut vous arrêter. Et on vous amène, pas nécessairement en prison, on n'appelle pas ça comme ça, mais vous êtes arrêté et vous devez suivre des cours de rééducation pour savoir comment est-ce qu'une femme doit se comporter, comment une bonne musulmane doit se comporter. Et c'est un peu ça là, notre trame de fond pour l'histoire d'une jeune femme, malheureusement, qui n'est plus, qui est Mahsa Amini. Imaginez ça, là, une jeune femme de 22 ans qui visite la capitale, Téhéran, avec sa famille, porte pas le voile correctement, arrêtée, accusée d'avoir violé la loi sur le hijab, qui était en place depuis très longtemps, mais pas vraiment appliquée. Mais là, le nouveau dirigeant veut appliquer ça avec une main de fer. Et là, pendant qu'elle est sous le contrôle de la police, supposément en rééducation, version officielle, elle aurait eu une attaque cardiaque 3 jours dans le coma, puis elle est décédée. Mm. On parle d'une jeune fille de 22 ans en parfaite santé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec cette police-là? Et la chose est devenue publique. Et là, c'est comme si... Moi, j'ai cette image-là, un feu de brousse. Là. Hein, un feu de brousse, c'est quelque chose qui s'embrase, là, qui devient très, très gros. Ça a commencé par une étincelle, une flamme, un petit quelque chose. Mais c'est un peu ça qu'on est en train de vivre en Iran. Les gens en ont soupé de ce régime qui les appauvrit, qui les isole du reste du monde. Et la réplique du gouvernement actuel, c'est pas de dire « Ah, j'écoute, mon peuple a l'air insatisfait », c'est de peser encore plus fort, puis de dire « Je vais vous réprimer encore plus sévèrement ». et entre autres de suspendre l'Internet, parce qu'on sait que le libre accès à l'Internet, c'est dangereux. Ça peut permettre aux gens de réfléchir tout seuls. Ça peut leur permettre...
Ça, on n'aime pas ça là-bas, là.
Et ça, et de voir
encore
qu'ailleurs...
moins quand une femme réfléchit tout seule, ça commence à être dangereux pour des régimes comme celui-là.
C'est toujours problématique pour des régimes comme ceux-là. Et quand je vous parle de feu de brousse, je vous ramène 12 ans en arrière. Vous vous souvenez de cette chose qu'on appelait le printemps arabe en 2010? Ça avait commencé quand un jeune Tunisien qui vendait des fruits, des légumes là, avec son étole, avait été harcelé par la police qui voulait un autre pot de vin et il s'était immolé dans une espèce de désespoir absolu.
Mohamed Bouazizi qui a parti le printemps arabe, finalement.
Exactement, ça avait été une espèce d'élément déclencheur, mais il y avait derrière ça des décennies et des millions de gens qui en avaient soupé. Et là, ça a donné une série de manifestations et des régimes qui ont été renversés. Bref, ça a balayé le monde arabe. Est-ce que là, ce que l'on voit, et je suis sûr que les dirigeants iraniens y pensent, parce que pour que des femmes iraniennes se réunissent en public et osent dire qu'elles sont insatisfaites, ça prend un courage exceptionnel, mais ça prend aussi une volonté de faire. Elles se réunissent pour, entre autres, brûler le hijab en public. Et ici, c'est pas de dire tout hijab est mauvais. La position des femmes iraniennes qui manifestent, c'est si je veux le porter, je le porte. Si je veux pas le porter, sacrez-moi la paix. Et il y a vraiment quelque chose qui se passe et ça fait plusieurs jours que ça continue. La jeune femme de 22 ans devient une espèce de symbole d'une société qui a énormément de griefs contre ce régime, qui les isole, qui les appauvrit, et bref, qui en fait presque une société, alors que l'Iran, si on recule avant la révolution, vous aviez des femmes avec des jupes qui conduisaient à Téhéran,
ben oui. Style
fantastique. Alors, à un moment donné, est-ce que ça se pourrait que cette espèce de dirigisme islamiste hyper conservateur soit un frein à tout progrès et que les gens pourraient voir un peu de lumière au bout du tunnel? On va continuer à s'intéresser en Iran, mais le courage de ces femmes iraniennes, c'est quand même assez exceptionnel.
Ben, on rappelle que l'Iran, avant la révolution islamique de 79, ben, il y avait le Shah d'Iran qui était l'empereur de l'Iran et sa femme qui était Farah Diba qui était une jeune femme de ce qu'il y a de plus moderne, qui incarnait la modernité, qui avait étudié en architecture à Paris, qui n'était ni voilée ni rien, où elle pouvait rivaliser avec toutes les grandes icônes de mode et de beauté à travers le monde. Et là, quand on regarde ce que l'Iran est devenu plusieurs décennies plus tard, ben on se dit, voilà qu'un pays peut changer très rapidement.
Oui, et le progrès, ceux qui disent que le futur est toujours merveilleux, et toujours mieux, c'est pas toujours vrai. Le progrès, c'est pas garanti. Puis le fait que ça change, ça veut pas dire que ça s'en va toujours vers mieux. Mais effectivement, l'Iran, le royaume d'Iran, était un bastion de modernité, géré par une corruption éhontée. Le Shah d'Iran n'ira pas au paradis direct, là, c'est pas clair. Il y avait des raisons d'établir une véritable révolution, mais d'en faire un État presque totalitaire religieux, ouais. C'est autre chose. Et c'est pas vrai que la seule alternative à un État religieux islamiste, c'est d'être un vassal de l'État américain. Et c'est pas vrai là, que c'est cette dichotomie-là qui existe. D'ailleurs, ce discours-là, c'est le discours des dictateurs qui ne va pas perdre le pouvoir. Si je vous donne la liberté, on va glisser vers la décadence de l'Occident. À tout prendre, j'aime mieux le risque de la risque de la liberté que le risque de l'oppression. À tout prendre.
Et sinon, faisons un petit wrap-up de ce qu'on ne verra pas cette fin de semaine, Guillaume.
Oui, alors un clin d'œil intéressant. Je regardais mon calendrier, puis moi, je suis avec un intérêt assez vorace. Le monde de la Formule 1, c'est plein de politique, c'est plein d'innovations technologiques. Bref, c'est un monde pour les geeks. Et en fin de semaine, je regarde, puis c'est le Grand Prix de Russie, à Sochi. Ces choses-là sont prévues longtemps d'avance. Mais il n'y aura pas de Grand Prix de Formule 1 en Russie cette année encore, d'ailleurs. Il a été annulé, évidemment, quand l'invasion de l'Ukraine a eu lieu. D'ailleurs, il y avait même une écurie de Formule 1 qui était massivement commanditée par un oligarque, on lui a dit « va-t'en chez toi ». Il y avait un pilote qui était le fils d'oligarque qu'on a envoyé chez lui aussi. Mais imaginez, la Formule 1, c'est le prestige absolu au niveau international. C'est les plus grandes marques, les multinationales qui y sont. Et là, vous ne voulez plus aller. Avant, on se battait pour aller en Russie. Maintenant, on refuse même d'y mettre les pieds. Alors, Vladimir Poutine, qui rêvait d'inscrire son empire millénaire parmi les grands joueurs de la planète, ben voici une autre preuve, celle-ci un peu anecdotique, j'en conviens, à quel point maintenant Vladimir Poutine a fait reculer et isoler la Russie comme personne avant lui.
Et ça va pas faire pleurer personne de ne pas voir le Grand Prix à Sotchi en Russie. Guillaume Lavoie, merci beaucoup. On se retrouve lundi.
Au plaisir.
Vous écoutez Yasmine Abdel-Fadel.
Cube Radio. Cube Radio.
C'est toujours un comté très, très baromètre.
Marie Montpetit.
Je pense que ce gouvernement-là va en faire beaucoup plus qu'il en a fait jusqu'à maintenant.
On fait quoi?
Patrick Derry.
Pour sortir de ça, pour éviter de se reparler dans un an.
La rencontre Derry Montpetit.
Lendemain de débat, lendemain de l'ultime débat. Les amis, avez-vous trouvé que c'était un débat camomille? Avez-vous survécu, vous, au débat?
Ben, oui, mais tu sais, à un moment donné, mon attention a diminué un peu vers la fin, puis je me disais que peut-être j'aurais pu faire autre chose de ma soirée. C'est drôle, j'étais surpris de constater ce matin que beaucoup d'observateurs ont beaucoup mieux aimé le débat d'hier soir. Puis je sais pas pourquoi, mais j'avais l'impression d'assister à une succession de slogans. Fait qu'écoute, puis là, c'est pas une question de Québécois ou Radio-Canada, là, c'est juste... Il y a quelque chose dans la formule hier, à un moment donné, qui faisait que non, ça je sais pas, j'ai pas accroché.
Ouais, moi aussi, j'ai trouvé la formule très intéressante. Oui, on entendait bien, les chefs de parti avaient le temps de s'exprimer. Moi aussi, j'étais assez surprise de la couverture médiatique très dithyrambique ce matin. Je serais assez curieuse de savoir le taux d'assiduité des téléspectateurs hier après la première demi-heure, parce qu'effectivement, c'était très lent au niveau du rythme et je pense pas qu'on a appris quelque chose.
Moi, j'avais un baromètre à côté de toi, c'était mon chum. Mon mari, là, Marie, tu le connais, il adore la politique. Et il s'est endormi en plein milieu du débat. Il s'est endormi solide. Il dormait, je pouvais pas croire. Là, je suis comme, t'aimes la politique, pour toi, c'est comme le Super Bowl. C'est l'équivalent de dormir au halftime show du Super Bowl. Le gars s'est endormi. Ben, j'étais comme, OK, ben, c'est vraiment plate. Là,
ça dépend. Si c'est 28-0 à mi-temps au Super Bowl, ça devient moins intéressant. Puis c'est un peu ça aussi.
Oui, mais tu sais jamais quand est-ce que tu vas voir un sein de Janet Jackson.
Ben, c'était un débat qui était super important.
J'ai eu des images dans la tête hier. Là. Non, on n'ira pas là.
On n'ira pas là, mais y a-t-il un gagnant? Y a-t-il un gagnant, quelqu'un qui s'est distingué dans ce débat? Là, ils ont eu le temps, il n'y a pas eu de cacophonie, mais c'était plus facile de se distinguer, disons-le.
Ben, nous, on a des prix. Peut-être on devrait aller du côté des prix.
Allons-y.
Je pense que Marie, comme moi, là, elle n'a pas de... Écoute, vas-y, Marie, je te laisse commencer.
Non, mais c'est parce qu'effectivement, c'est vrai qu'il y a personne qui s'est démarqué. Ils ont tous été... Correct. Ils ont tous été bons, mais il n'y a personne qui s'est démarqué. Il n'y a pas de grand gagnant. Là. Je pense pas que ce débat-là va venir faire une différence. Donc, en tout cas, dans les prix, nous, on avait évidemment, j'imagine que tu vas deviner de qui on parle, mais évidemment, le prix du Schtroumpf grognon. Monsieur Legault avait dit.
J'ai comme l'impression que c'est pas Paul Saint-Pierre Plamondon.
Non, Monsieur Legault avait dit qu'il ferait attention à son nom verbal. Ben, force est de constater que ça a été de très très courte durée. On a revu la petite bouche pincée, puis on sentait qu'il était bien agacé par certaines questions, notamment de Gabriel Nadeau-Dubois. Là.
Ouais, mais justement, à qui moi je décerne mon premier prix, c'est dans le prix tombé sur les nerfs de François Legault à tout coup. Écoute, il est vraiment, c'est en anglais, il y a une expression, le to get under his skin.
C'est
là. Monsieur Nadeau-Dubois, là, il est vraiment bon là-dedans. Ça a pris 15 minutes avant que Monsieur Legault fasse sa bouche pointue de la semaine passée. Puis au deuxième échange avec Monsieur Nadeau-Dubois, c'était encore la même chose.
Eh bien, on dirait qu'il l'irrite, qu'il l'agace, qu'il vient le chercher au plus profond de lui-même, qu'il en perd ses moyens. Il est juste pas capable de le sentir, Gabriel Nadeau-Dubois.
Absolument. Tout le monde l'énerve, M. Legault, mais lui, je pense que GND en particulier.
Sinon,
on avait un autre prix. Un petit prix technique aussi, oui, c'est ça, de je regarde la caméra de façon un peu trop intense et peut-être même un peu malaisante. On a compris que Mme Anglade avait décidé
Dominique.
Que c'était une stratégie d'être... Exactement. La nouvelle Dominique, de parler de choses bien personnelles et de s'adresser aux électeurs, yeux dans les yeux. Mais c'était un peu too much, je pense. Un peu too much.
Il y avait une volonté de connecter avec la population. Il y avait un besoin de transcender les écrans puis de venir nous le chercher directement dans nos chambres à coucher ou dans nos salons.
Ouais, je plains un peu quelqu'un qui a une télé de 80 pouces à la maison. Ça devait être peut-être un petit peu trop. Moi, j'ai un prix Schtroumpf à lunettes sans les lunettes que je décerne extrêmement amicalement à PSPP. Puis c'est vraiment pas pour dénigrer, au contraire. J'adore les nerds. Et Monsieur Plamondon, Saint-Pierre Plamondon, maîtrise ses dossiers, reste sur ses dossiers et d'un calme olympien en toutes circonstances, même quand il attaque, c'est de façon scientifique. Et ça fait du bien, ça rend le débat meilleur pour tout le monde.
Mais Patrick, quand tu me dis « Schtroumpf à lunettes sans lunettes », moi j'ai pensé à quelqu'un d'autre, je pensais que c'était François Legault, parce que hier, roulement de tambour, il n'y en avait pas de lunettes, on en avait besoin face à face, on n'en a pas besoin non. pour Radio-Canada. Fait que je me disais, c'est-tu le Schtroumpf à lunettes, pas de lunettes, là?
Non, ça aurait pas être ça, mais écoute, ça montre à quel point on joue sur l'image pendant les débats, c'est un peu drôle, là.
Sinon, on n'est pas le 14 février, mais c'est tout comme...
Ben oui, on a le prix Love is in the air. Love is in the air. Gabriel Nadeau-Dubois et PSPP qui filaient
la
symbiose, le parfait amour. Ils étaient en phase. Écoute, c'était beau à voir. C'était beau à voir. C'était positif.
C'était cute.
Oui. Non, mais c'était le fun.
Quand GND a défendu Mme Anglade lorsque le premier ministre lui coupait la parole en disant « laisse-la donc parler », c'était cute, ça aussi?
Oui, très élégant.
Un petit peu en contrebalance le mansplaining, mais non, mais c'est de la positivité en politique. Moi, je dis ça en cynisme, j'aime ça. J'ai un dernier prêt à décerner à Éric Duhaime, qui est le prix, je cite la Norvège, mais j'oublie la moitié de l'histoire, hein, parce que M. Duhaime disait hey, « en Norvège, là, ce pays... » Formidable, ce pays scandinave, écolo et tout le kit. Ben, les autres exploitent leur pétrole, puis là, maintenant, ils mettent ça dans leur bas de laine.
Mais voyons, Patrick, pourquoi tu prends cette voie-là?
Je sais pas. Parce que c'est vendredi, mais c'est ça. Mais sauf que c'est vrai que la Norvège a exploité ses ressources pétrolières. Puis écoute, l'équivalent de la caisse de dépôt en Norvège, je pense qu'ils ont au-dessus d'un trillion là, depuis plusieurs années. Là, c'est gigantesque. Mais, M. Duhaime a oublié de dire, la Norvège impose les voitures à essence presque à 100%. Donc, ça double le prix des voitures à essence. Fait qu'ils ont appuyé ça à fond la caisse sur les véhicules électriques. Et ils ont aussi un niveau de vie plus élevé que nous. Mais bref, le modèle de la Norvège, c'est le modèle de peut-être il y a 20 ans, 30 ans. On a peut-être manqué notre fenêtre, mais on n'est plus là.
Finalement, l'heure est aux prédictions. Je vous avais dit que j'allais vous demander de vous mouiller. Alors, c'est le Ice Bucket Challenge version Cube Radio. Je veux le savoir... Qui va gagner combien de sièges? On commence avec Marie, gouvernement. Là, il est facile.
Écoute, gouvernement, moi, la CAQ, je pense que ce sera autour de 94 sièges, de façon précise.
94, my God, ça, c'est précis. Patrick?
Moi, je suis à 96, mais écoute, il y a un lien avec les autres facteurs, là. C'est-à-dire que, tu sais, je pense que le pourcentage de voix de la CAQ va peut-être fléchir un peu ou plafonner, là. Moi, j'irais autour de 37%, là, un peu comme il y a 4 ans, là. Puis je pense que le PQ va grappiller un peu par-dessus, mais la division du vote va quand même leur donner un avantage considérable.
Opposition officielle?
Opposition officielle, ce sera le Parti libéral du Québec, qui, je pense, ça va se situer quelque part entre 15 et 20 sièges, probablement 18.
OK, on va y aller pour 18.
Moi, je suis allé à 15. Écoute, je pense qu'il va y avoir une glissade qui va se poursuivre. Le taux de participation risque de pas être très, très fort chez les électeurs libéraux, mais le vote est tellement concentré que, tu sais, il y a quand même des limites, mais on va... Le plancher de vote et de siège qu'on pensait avoir atteint deux fois sous Jean Charest puis une fois avec M. Couillard, moi je pense qu'on va aller chercher, encore une autre fois, on va redescendre. Bref, on atteint le fond du baril, on va continuer à creuser.
Deuxième opposition? Marie?
Le Québec solidaire. Québec solidaire, je pense qu'ils vont être à 8 sièges. Je pense qu'ils vont perdre des circonscriptions au lieu d'en gagner.
Quand même.
Ouais, je suis à la même place que Marie. Moi, j'ai mis 9. Je suis un petit peu plus optimiste parce que, tu sais, bon, il va peut-être avoir un certain ralliement des troupes, mais sauf que la CAQ frappait fort à certains endroits, dont Sherbrooke. Puis, bon, évidemment, c'est une position qui est difficile parce que QS, tu sais, il y a des luttes qui sont serrées et ils peuvent pas vraiment faire de gains. Et ça serait surprenant qu'ils maintiennent tous leurs acquis. Donc, ils risquent d'en perdre un peu.
Troisième opposition. On est déjà rendu là. Marie?
Le Parti québécois et le Parti québécois. Puis on ne s'est pas parlé avec Patrick, hein. Je vois qu'on est quand même assez en phase dans nos lectures. Moi, le Parti québécois, je pense que ce sera 5 circonscriptions. 4 circonscriptions dans l'Est, la Gaspésie, les Îles-de-la-Madeleine, entre autres. Et la circonscription de Camille Lorrain, là, où se présente le chef du Parti québécois.
Et Patrick?
Ouais. Ben moi, j'ai mis 4. Là, j'étais dans le même ordre. Et je pense que dans les 4 partis d'opposition, le Parti québécois pourrait causer la surprise et avoir de plus de voix. Là. Aller chercher quelque chose comme 17 % des voix. Là. J'avais mis 12 pour le PLQ. Là, parce que il y a une tendance qui est là. Puis, moi, je pense qu'il y a un espace pour le discours politique optimiste, positif. Monsieur Plamondon est vraiment le seul à l'offrir. Pour vrai, tu sais, GND quand même pas pire, mais Monsieur Plamondon, c'est encore plus assumé. Il est pas ratoureux comme Monsieur Nadeau-Dubois. Et comme la CAQ, et ça va assez bien, il y a peut-être je pense qu'il y a des gens qui vont glisser un peu du schtroumpf grognon, justement, au schtroumpf à lunettes plus souriant, sans lunettes. Et, non, je pense qu'il y a des bonnes chances que ça arrive, 17-18%, puis qui cause la surprise. Et tant mieux s'il est élu, parce que, tu sais, au-delà de ça, moi, je pense qu'il mérite comme politicien, là.
Est-ce que Éric Duhaime fait son entrée à l'Assemblée nationale, Marie?
Ben, fais tes maths, tu verras que les 125 circonscriptions ont été attribuées dans mon calcul et qu'il n'y aura pas de vote pour le PC, il n'y aura pas de siège pour le PC.
Je suis très contente de ta réponse parce que c'était le genre de question piège que mon père me faisait. Tu sauras que j'avais ma calculatrice juste à côté en train de calculer pour voir si tu t'es trompé dans tes calculs ou pas. Et si j'étais toi et que moi j'étais mon père m'aurait dit « bien ». C'était sa manière de me dire bravo.
Bon.
Ben, merci, Mme Delfarel.
Je sais pas si tu avais deux calculatrices ouvertes en même temps, mais tu as dû voir que moi, il reste une place. Et je pense que M. Duhaime a des chances parce que, écoute, c'est quand même, c'est Chauveau, c'est son comté. Là, il y a une machine qui est plus présente à Québec et s'il peut avoir une percée, c'est là. Ceci dit, moi, je pense quand même, c'est le PCQ, j'ai mis 12 % le jour du vote. Pourquoi? Parce que c'est, un, évidemment, je crois qu'il est plafonné, mais deux, c'est un électorat qui vote pas normalement. Non, parce qu'une partie de l'électorat du PCQ, là, c'est juste du monde qui sont fâchés, qui comprennent pas comment ça marche, qui vandalisent les pancartes, qui pensent qu'il y a des complots partout, puis qui risquent de dire, ça donne rien de toute façon, cette affaire-là. Puis,
mais Patrick, moi, j'imagine le militant lambda du Parti conservateur qui croit au complot, puis de le nouvel ordre mondial, puis de Bill Gates qui veut nous contrôler avec des 5G puis des puces dans les vaccins, arriver au bureau du scrutin avec sa pièce d'identité, avec photo, puis la leur donner, toutes les informations d'où est-ce qu'il habite, puis qu'est-ce qu'il fait dans la vie. Peut-être pas qu'est-ce qu'il fait dans la vie, mais les informations personnelles. T'sais, lui qui voulait même pas avoir l'application de vaccination sur son cellulaire parce qu'on allait nous contrôler avec ça. Je sais pas à quel point ça va être à l'aise, ce monde-là, d'aller voter.
C'est assez bien résumé.
Il y en a beaucoup qui l'expriment ouvertement, qui sont contre le système. Donc, quand tu es contre le système, je pense que tu ne vas pas voter.
Non, d'ailleurs, ça va être intéressant de voir comment ça va se passer. T'sais, il risque d'avoir un choc culturel aussi au moment, parce que il y a des gens qui vont sûrement sans doute voter pour la première fois puis qui se sentent pas à l'aise. D'ailleurs, c'est le début du vote par anticipation en fin de semaine aussi, ce qui annonce qu'il reste, il va rester une semaine de campagne. Là. Puis moi, en tout cas, juste souligner que pour les étudiants, ça commence aujourd'hui. Et c'est assez amusant parce qu'il y a une grève étudiante aujourd'hui. Il va y avoir des manifestations pour le climat. Ou en tout cas contre les hydrocarbures. Et tu sais, c'est tellement typique d'un certain militantiste qui veut avant tout avoir raison. Crime des assos étudiantes, envoyez voter votre monde pour qui vous voulez, trouvez un candidat qui vous ressemble, mobilisez-les, là, les 130 000 qui sont en grève, allez voter, crime, sortez pas les pancartes, allez noircir des bulletins de vote.
En passant, il y a des candidats de la CAQ qui se sont joints à la marche pour le climat. Ben, ils ont été, ils ont dû être sortis de là pour des raisons de sécurité. Ça vient de sortir.
Ouais, ils ont été chahutés. Ouais, je, ouais.
Est-ce qu'il y a des conservateurs qui marchent?
Non, ça prend son char. Franchement, Patrick, là. Patrick, déniaise, là. C'est du F-150.
Je vais.
C'est eux qui mènent la parade devant. Tu sais, les chars qui conduisent. Ouais. Tant qu'il y a des hydrocarbures, il y aura des conservateurs. Patrick, Marie, on va se parler déjà la semaine prochaine pour commencer à faire le bilan de cette campagne. Ça a passé vite. Mais mon Dieu, que c'est moins plate qu'on l'avait imaginé.
Bon week-end! C'est pas fini. Bonne fin de semaine.
Pas fini tant que c'est pas fini. Bye-bye.
Yasmine Abdel-Fadel. Une main de fer dans un gant de velours. Un vent de fraîcheur qui décoiffe.
Cube Radio.
Je sais pas si vous avez déjà vu Louise Deschâtelet fâchée. Moi, je peux dire que oui. La semaine dernière, vendredi dernier, c'était la toute première de l'émission Le Monde à l'envers où j'ai l'immense plaisir et honneur d'être une panéliste avec Louise Deschâtelet. Et imaginez que avec tout ce que ça prend, tout ce que ça requiert déjà comme un stress et angoisse et anxiété et excitation, ben il y a toujours un Air Canada qui vient nous gâcher les sentiments qui nous habitent avant une première d'une telle importance. Louise Deschâtelet est avec nous pour nous raconter comment Air Canada est un casseux de party et une source d'anxiété pour bien du monde, particulièrement ceux qui habitent dans les régions éloignées du Québec. Bonjour, ma chère Louise.
Bonjour, Yasmine.
Raconte-nous comment ça s'est passé. Qu'est-ce qui est arrivé vendredi dernier?
Je vais essayer de faire ça court. Vendredi dernier, on rentrait à Montréal. Sept parmi les huit filles qui jouent dans la pièce Huit femmes. On était en représentation le jeudi soir à Sept-Îles. Et ces sept filles-là, on prenait l'avion le matin pour rentrer à Montréal. L'avion de 6 heures le matin. Donc, à 3h15 debout, vite ramasser tes affaires, te rendre à l'aéroport. Et quand les filles du comptoir d'Air Canada ont ouvert leur comptoir, elles ont passé, les trois premières filles de notre groupe sont passées devant nous et ont reçu leur embarquement. Et quand elles sont arrivées à moi, elles ont regardé mon billet que j'avais imprimé, qui était entre mes mains, qui était un billet semblable à celui des trois autres, et elles ont dit « Vous n'êtes pas sur notre liste d'embarquement. »
Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui peut justifier ça?
Le cœur m'a fait trois tours. J'ai dit, écoutez, c'est pas possible, on fait partie du même groupe. Là, vous en avez passé trois, il en reste quatre, moi et trois autres. Et on est toutes de la même équipe. Les billets ont été achetés par la même agence de cette île. Et donc, on est à bord. Et là, elles m'ont fait passer derrière le comptoir, parce qu'elle était d'une telle mauvaise humeur, l'employée. Elle m'a fait passer derrière son comptoir, puis elle m'a dit, votre nom n'est pas là. Effectivement, mon nom n'était pas sur cette liste. Arrive ma collègue suivante, son nom n'est pas sur la liste. L'autre, son nom n'est pas sur la liste. Quatre d'entre nous, notre nom n'était pas sur la liste. Mais j'ai dit, mademoiselle, il faut que notre nom soit quelque part. Il est sous une autre appellation. Peut-être que vous pourriez faire une recherche pour voir si ça ne serait pas enregistré sous le nom de l'agence de voyage. Elle m'a opposé une fin de non-recevoir, elle m'a pitché, il n'y a pas d'autre mot, elle m'a pitché mon billet comme ça sur le bord du comptoir, puis elle m'a dit, vous me dérangez, là, il faut que je continue.
Ah, c'est tout simple comme ça, vous la dérangez de faire son travail.
Exactement. Et elle nous trouvait ennuyeuses, parce que là, j'ai commencé à lui dire, écoutez, mademoiselle, moi, ce soir, je suis à la télévision en direct, à TVA, dans une nouvelle émission. Il faut absolument que je sois à Montréal. Une autre de mes collègues, Marie-André Lemieux, elle jouait au théâtre samedi après-midi. Donc, il fallait aussi qu'elle soit à Montréal. Elle voulait pas nous entendre et à chaque fois qu'elle nous répondait, elle nous répondait prioritairement en anglais parce que j'ai l'impression qu'il y a certaines subtilités de la langue française qui devaient lui échapper ou elle aimait pas ça parler en français.
Mais vous étiez où? Vous étiez dans quelle ville?
Sept-Îles.
À Sept-Îles, elle comprenait pas le français?
Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a aucun bon sens. En tout cas, tout ça a fait que j'ai même pleuré devant elle. J'ai joué mon grand acte pour essayer de la convaincre de faire une recherche plus approfondie, de vérifier dans les annales, d'appeler l'agence de voyage. Elle n'a voulu rien entendre. Et les trois autres sont restées stupéfaites parce que elle voyait bien que si moi je gagnais pas mon point, elle n'allait pas pouvoir le gagner elle non plus. Ils ont procédé à l'embarquement de l'avion. L'avion est partie. Et elles sont revenues par la porte de l'embarquement. Et là, elles nous ont vus les quatre en attente devant elles, parce qu'on se disait jusqu'à la dernière minute, peut-être qu'elles vont changer d'avis quand elles vont voir qu'il y a quatre places de libre dans l'avion. Pas un mot. Et là, spontanément, elle m'a lancé « Vous avez dû être arnaqué. Il y a sûrement quelqu'un qui vous a vendu des faux billets. »
Mon Dieu!
Mademoiselle, c'est impossible. C'est le même producteur qui a acheté les sept billets. Et là, elles sont passées devant nous, puis elles ont filé. Et comme elles n'avaient un autre vol qu'à 14h40 l'après-midi, qu'à 15h40 l'après-midi, elles sont rentrées chez elles. Il n'y avait plus personne au comptoir. Là, vous dire, Yasmine, ce qu'on a été obligé de faire, heureusement, qu'il existait Colette à l'aéroport, la gardienne de sécurité, qui m'a prêté son téléphone parce qu'il y avait un bug informatique dans tout l'aéroport. Aucun de nos téléphones fonctionnait. Il fallait qu'on appelle notre producteur pour le tenir au fait de ce qui se passait. Il fallait communiquer avec l'agence de voyage. Il fallait que je communique avec les producteurs de Le Monde à l'envers pour leur dire dans quelle situation j'étais, puis qu'on se mette à se chercher des billets de remplacement au cours de la journée. Ce fut la foire d'empoigne. Et jusqu'à ce que je vous dirai une quinzaine de minutes plus tard, 15-20 minutes plus tard, nos copines, une de nos copines qui était à bord, nous envoie une photo avec les quatre places libres dans l'avion.
Ah, ben les places étaient là, elles ont même pas été, elles ont même pas daigné vérifier, ces agents de bord, s'il y avait de la place pour vous permettre de prendre le vol pour lequel vous aviez des billets. Ils ont beau ne pas reconnaître des billets, mais même si vous faisiez payer en double puis que vous puissiez prendre ce vol-là pour éviter de l'anxiété...
Non, elles n'ont pas voulu. Elles nous ont dit jusqu'à la fin que le vol était plein et qu'il n'était pas question qu'on monte à bord, alors qu'il y avait quatre places. Donc, c'était de toute évidence nos quatre places. Puisque, effectivement, leur vol était plein. S'il était plein, c'est que à la fin, si elles font une vérification complète de leur liste de passagers, elles voient bien qu'il y a quatre billets qui n'ont pas été donnés.
Vous
donc,
êtes
ils
quatre.
Appartiennent à qui? Et là, tu revérifies sur ta liste et tu vois qu'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. Eh bien, non. Les demoiselles ont refusé systématiquement. Et en plus, quand on est revenu l'après-midi parce que notre producteur a communiqué avec l'agence de voyage, l'agence de voyage a fait des pieds et des mains pour nous trouver des billets dans le vol de l'après-midi parce qu'il n'y avait aucun autre. Il y avait d'autres vols dans la journée, mais ils étaient tous pleins. Alors, on ne pouvait pas monter. C'était le vol d'Air Canada qu'on a dû prendre l'après-midi. Et les billets de retour pour un retour pour quatre personnes ont coûté la modique somme de près de 900 $ pour chaque.
Pour juste revenir, c'est un aller simple.
Juste revenir. Oui, oui, oui. Alors, puis ils n'ont jamais remboursé, en tout cas pas à ce jour-là. Ils n'ont jamais remboursé les billets.
Est-ce que vous avez Louise, est-ce que vous avez essayé de rentrer en contact avec Air Canada depuis votre retour?
Ça, c'est impossible. Hein? Moi, j'ai bâti mon dossier, j'ai
c'est
monté
comme
mon dossier.
C'est plus facile d'avoir un médecin de famille que de parler avec Air Canada?
Quasiment plus maintenant, même si c'est très difficile d'avoir un médecin de famille.
C'est ça.
Parce que Air Canada, sachez que le siège social identifié sur Internet, il est dans le Royaume-Uni. Hein? Il est au Royaume-Uni, il n'est pas nulle part ailleurs. Alors, c'est en fouillant que j'ai fini par trouver qu'ils avaient un gros bureau sur la côte de l'Iès. Alors, c'est là que j'ai envoyé mon dossier. Et mon dossier par Internet, parce que c'est impossible de communiquer avec eux, sauf si on répond à leur questionnaire. Mais leur questionnaire, il ne correspond pas à notre problème à nous. Alors, je ne peux pas porter une plainte. Alors, j'ai essayé de trouver une adresse Internet pour porter plainte à Air Canada par Internet. Et l'adresse est en France. Donc, j'ai envoyé mon dossier, mais 48 heures plus tard, j'ai reçu un avis que le système avait refusé de recevoir mon dossier.
Ah ben oui, c'est plus facile.
Oui.
C'est plus facile de ne pas recevoir
voilà
des plaintes. Ben Louise, écoute, j'espère que tu vas persévérer dans la quête finalement d'excuses de la part d'Air Canada de t'avoir fait subir ça un vendredi aussi important, de faire subir ça même à quelqu'un que c'est pas important son vendredi là, mais ça n'a pas de bon sens. Puis je pense à toute cette population qu'il y a dans les régions les plus éloignées qui sont dépendants d'agences de voyage, de voyagistes comme Air Canada, comme d'autres, qui n'arrivent pas à livrer les services dans la dignité, parce que c'est une question de dignité. Louise Deschâtelet, merci beaucoup d'avoir été avec nous, puis on va se retrouver très bientôt.
Merci beaucoup, Yasmine, et je te tiendrai au courant des suites.
Je veux le savoir. Merci, Louise.
D'accord. Au revoir.
Yasmine Abdel-Fadel.
Pour nous rejoindre en studio.
Studio à commercial, cube.radio. Appelez ou textez.
187 Cube Radio.
1877-827-2346. Cube Radio. Cube Radio.
En direct à LCN.
On va revenir évidemment sur le débat d'hier avec Yasmine Abdel-Fadel. Mais Yasmine, tu as vu ça avec notre collègue Yves Poirier, des candidats de la CAQ, dont le ministre sortant de l'Environnement, Benoît Charrette, qui ont été chassés de la manifestation. Tes impressions là-dessus?
Bien ça, je trouve ça tellement dommage parce que c'est encore une fois comme si la cause appartenait en exclusivité à un groupe. Or, la cause environnementale, la lutte au changement climatique, c'est un devoir que l'on a de manière plus inclusive. Tout le monde est impliqué là-dedans, c'est notre lutte à tous. Je pense que ces militants auraient dû écouter peut-être le débat d'hier, puis écouter Gabriel Nadeau-Dubois qui disait au premier ministre que la lutte au changement climatique, ça doit pas être une question de division, c'est qu'il faut additionner les forces vives pour le faire. Je trouve ça profondément désolant que, premièrement, on traite nos politiciens en campagne électorale de cette manière, qu'on traite un être humain qui veut se rejoindre une cause qui est importante de cette manière. Et honnêtement, ça manque juste de classe, ça divise, puis ça fait dire à du monde, ben, tu sais quoi, ça me tente pas, moi, d'être environnementaliste, comme si on avait l'option d'être environnementaliste, croire au changement climatique ou ne pas le croire. C'est vraiment dommage, c'est très triste.
Revenons donc sur le débat. Je lisais ta chronique ce matin dans le Journal de Montréal. Tu parlais d'un débat camomille et je voyais que tu as donné la note de 5 sur 10 à François Legault. Ça, à l'école, ça passait pas 5 sur 10, là.
Bien, est-ce qu'il y a eu de l'amélioration par rapport au face-à-face? Oui. Mais une amélioration ne veut pas dire une surprise extraordinaire puis une performance à couper le souffle. Le premier ministre, on voyait au début, là, qu'il se forçait à être gentil, puis à être sympathique, puis à être souriant, puis à contrôler son non-verbal. Et plus la soirée avançait, plus c'était dur pour lui, plus on voyait que Gabriel Nadeau-Dubois venait le chercher au plus profond de lui-même, qu'il n'arrivait pas à croire qu'il devait débattre avec quelqu'un comme Éric Duhaime, qu'il a aucun intérêt envers un Paul Saint-Pierre Plamondon et une Dominique Anglade. En fait, il était plus heureux de rencontrer les médias après le débat que d'être au débat. On le voyait, ça paraissait dans son non-verbal et il avait pas le goût d'être là. Alors, je pense qu'il s'est amélioré. Encore là, je pense qu'il s'est amélioré depuis le face-à-face, mais je pense qu'on est loin d'une performance que François Legault devait livrer.
À qui tu donnes ton étoile du match? Là, on a une idée de à qui tu ne la donnes pas.
Oui, ben c'est ça.
Donnes-tu ton étoile?
Ben Paul Saint-Pierre Plamondon, je trouve qu'il est resté fidèle à lui-même avec un ton posé, à rester très calme, très pédagogue, très... il défendait ses convictions, qu'on soit d'accord ou pas d'accord avec Paul Saint-Pierre Plamondon. Il a des convictions, il les défend et il y croit. Il ne cherche pas à attaquer ses adversaires de manière gratuite. On voit qu'il est plus dans l'échange, qu'il est capable de reconnaître les bons coups des autres. Puis je sais que ça plaît aux Québécois. Ça paraît que ça plaît aux Québécois. C'est le ton que les Québécois recherchent. Ils ne veulent plus de la cacophonie, de la chicane, des attaques et du pointage de doigts. Et Paul Saint-Pierre Plamondon l'a compris. D'ailleurs, d'autres chefs ont essayé de copier cette recette-là dans le débat d'hier, qu'on voit qu'avec Éric Duhaime ou Madame Anglade, on voyait qu'ils ont tous pris une camomille avant de rentrer dans ce débat-là. Puis on va reconnaître nos bons coups, nos bonnes propositions, puis on est tous amis, puis on s'aime tous. C'est pour ça que je l'appelais un débat camomille, c'est que il y avait pas beaucoup d'attaques, il y a eu quelques attaques, mais il y avait rien de, on était loin de la coupe aux lèvres.
Et si on fait un récapitulatif de la semaine, comme on a pris l'habitude de le faire, le vendredi, qui c'est le mieux, le plus illustré pour toi?
Ben, toujours pour moi, Paul Saint-Pierre Plamondon s'illustre étant donné que, tu sais, une campagne électorale, c'est beaucoup de pelures de bananes qu'il faut éviter, c'est un chemin sinueux qu'il faut traverser et arriver au 3 octobre sans trop glisser. Et pour le moment, c'est celui qui a le moins glissé, pas du tout glissé. Je trouve qu'il mène encore sa campagne comme lui l'entend, avec le ton qu'il veut, avec les convictions et les sujets qu'il veut pousser. Il ne se laisse pas abattre, ou il ne se laisse pas perdre le nord avec les batailles des autres chefs. D'un autre côté, on a un François Legault qui a encore dû s'excuser cette semaine suite à sa prestation au face-à-face. On voyait que c'était plus difficile, qu'il avait une certaine pression pour livrer la marchandise pour le débat d'hier. Donc, je dirais que kiff-kiff, un Éric Duhaime et un François Legault qui ont perdu la semaine, disons ça comme ça, et quand même Paul Saint-Pierre Plamondon l'a gagné cette semaine définitivement.
Ouais, lui qui doit prendre une pause pour des raisons de santé. On verra évidemment pour la suite.
On lui espère un prompt rétablissement.
Merci beaucoup, Yasmine.
Merci beaucoup, Marianne.
Tout à fait. Merci, Yasmine. Bon week-end.
Cube Radio.